Oui. En attendant les gars, c'est d'abord les quarts de finale. On est à J-1 du quart de finale entre la France et l'Uruguay, donc match à suivre demain sur RMC. Le capitaine des Bleus, Hugo Lloris, c'était en conf de presse aujourd'hui. Et pour le gardien de l'équipe de France, faudra faire un match plein. Écoutez-le, Hugo Lloris.
Je crois qu'il faut pas partir fleur au fusil. Ça va jouer sur des détails. Être bien concentré sur nos tâches défensives, ne pas leur donner de coups de pied arrêtés ou de corner facile tout ce qui est aux abords de la surface, parce qu'ils sont très performants dans ce secteur. Et nous, offensivement, il va falloir mettre du rythme, de la vitesse, de l'intensité, essayer de voir les choses avant, prendre également ses responsabilités dans les 30 derniers mètres. On a des très bons frappeurs, donc il faut également frapper de loin. Et on le sait, ils défendent très bien. Ils concèdent très peu d'occasions depuis le début du tournoi. Ils concèdent très peu de buts, logiquement. Après, ils ont leurs propres caractéristiques. Ils sont très, très durs à jouer, mais voilà, il faudra un match plein de la part de l'équipe de France.
Voilà, faudra un match au plein, dit Hugo Lloris. Ouais. Je t'entendais pester pendant qu'il parlait, Ali.
J'ai pas pesté.
Bah, c'est d'une logique implacable, non, ce qu'il dit, on est d'accord.
Il y a le sélectionneur qui parle. J'aime bien écouter Didier Deschamps parler parce que c'est sélectionneur, mais j'aime bien aussi écouter le joueur, voire le capitaine, nous parler d'autre chose. Je ne sais pas de quoi, mais il pourrait parler d'autre chose.
Bah, tu le trouves plat, c'est ça, dans ce
pas plat, non. Il dit exactement les mêmes choses.
C'est logique ce qu'il dit, finalement.
Mais on n'attend pas de Lloris qui nous parle de logique. C'est un quart de finale face à l'Uruguay. Parle-nous d'autre chose concernant ce match à l'Uruguay et ton équipe. Peut-être les carences que tu as eues contre l'Argentine, il ne faut pas les avoir. On a des bons tireurs, il faut qu'ils tirent. Enfin, il faut qu'on fasse un match plein. Ça veut dire quoi, un match plein? Ça veut rien dire. Je préfère, moi, des fois, être moins bon pendant des périodes et exploser l'adversaire pendant 10 minutes et gagner 3-0. Ça m'intéresse. Mais un match plein, ça veut dire quoi? Ben, on a été bien plein, on a perdu 1-0.
Jérôme?
Non, mais bon, après, c'est vrai qu'Hugo Lloris, on est habitué. C'est des phrases bateau. Après, il apporte rien. C'est pas une critique. Il est comme ça. Et surtout la veille des matchs où Didier Deschamps t'en fait pas, le joueur qui l'envoie. Bon, en général, c'est le capitaine.
Bah, donc,
Le connaît très bien. Il est bien façonné et tout ça. Il a un bon discours dans sa tête. Voilà, c'est que des phrases bateau. Après, oui, en effet, je rejoins Alice. Que je veux dire quand il dit, il faut frapper. On a des bons tireurs. Hein. Oui, c'est l'équipe, elle est en face, elle est solide, elle prend peu de buts. Bah oui, on le voit, ouais.
Dans les 30 derniers
mètres. Il va falloir être patient, hein. Il va falloir faire un match plein.
Vous êtes méchant avec lui.
Non, dans les 30 derniers mètres.
Dans les 30 derniers mètres.
Attention, parce qu'ils peuvent marquer.
Bon, ok, peut-être qu'il le dit sur un ton un peu monotone, on va dire. Mais ce qu'il dit est logique, quoi.
Non, je m'en fous du, on va pas dire logique. Et je m'en fous du ton. Je préfère qu'il prenne un ton même bizarre, mais qu'il nous dise quelque chose de nouveau.
Non, mais c'est vrai. Après, pour le défendre, Ali, c'est aussi les questions des journalistes.
Il y a ça aussi.
Toujours les mêmes.
Il répond des questions, le mec.
Non, j'ai entendu des questions normales à Kimpembe qui nous a apporté autre chose. Des questions normales à Hernandez qui nous a encore apporté autre chose. À la rigueur, qui nous passe un petit peu les jeunes qui viennent d'arriver, on apprendrait beaucoup, beaucoup de choses sur
ça. De toute façon, bon, s'il donnait à manger aux médias, Hugo Lloris, ça saurait. Donc,
oui, ça saurait.
Donc, c'est comme ça. L'essentiel, c'est qu'il soit bien concentré de un, qu'il fasse un bon match. Bon, il a l'air mieux dans sa forme, même si le dernier match contre l'Argentine, on aurait aimé qu'il fasse un ou deux arrêts de plus. Ouais. Mais bon, on verra demain.
Il y en a un qui sera absent demain, c'est Blaise Matuidi. Par qui, comment Didier Deschamps le remplacera, le sélectionneur de l'équipe de France, qui a exposé sa réflexion face à cette suspension. Écoutez-le.
J'ai d'autres joueurs, avec d'autres profils qui sont pas exactement celui de Blaise Matuidi. C'est une réflexion pas que poste pour poste, c'est une réflexion par rapport à un système et une animation, en sachant que ça sera pas le même profil, mais de faire en sorte que l'équipe continue d'être performante et compétitive.
Et ben justement, puisque Blaise Matuidi ne sera pas là, puisqu'on se demande par qui sera remplacé, quelle sera l'animation, on va passer à ton avis tranché, Ali, puisque il est un peu lié à cette absence de Blaise Matuidi.
Anniversaire du FC Niort qui fête ce soir ses 90 ans. Alors,
c'est pas une chèvre sur le drapeau, c'est ça?
Un chamois.
Ouais, c'est mignon, ça fait partie de la légende.
Oui, je suis pas sûr que ça soit une chèvre.
Non. Non, c'en est pas un, c'est un chamois, je te le confirme. Alors toi, t'as une envie pour demain, face à l'Uruguay, mon cher Ali, c'est tu veux Fekir plutôt que Tolisso. D'ailleurs, il y a une tendance qui se dégage ce soir. Mm-hmm. Ça pourrait être le cas, ça pourrait être une surprise que nous prépare Didier Deschamps.
C'est-à-dire qu'il est dans l'optique de remplacer Blaise Matuidi. Mais pourquoi le remplacer? Il est dans l'optique de jouer N'Golo Kanté, Pogba et le fameux autre troisième milieu terrain. Étant donné que Matuidi est suspendu, tu amènes un autre. Pour la logique de Deschamps, bien sûr, ça serait poste pour poste, comme on dit, on met Tolisso, même s'il est à droite. Hein. Pour moi, c'est un milieu relayeur, travailleur et tout. Mais est-ce que ça serait pas, je trouve, montrer à l'adversaire, soit je vais muscler mon équipe parce que j'ai un peu peur de l'Uruguay, soit je vais opter pour casser un petit peu cette défense et ce milieu terrain en ajoutant un joueur qui va se glisser entre les lignes, ce que fait très bien Griezmann, mais là t'en auras deux. T'auras à la fois Fekir et Griezmann qui vont se glisser entre les lignes et embrouiller le milieu défensif et la défense pour permettre après à Mbappé et à Giroud de pouvoir finir les actions. Voilà les deux solutions. Soit je reste avec Tolisso pour être costaud au milieu, mais en face, t'as exactement les mêmes joueurs qui vont être costauds au milieu, mais si tu leur mets Fekir dans les pattes, est-ce que ça serait pas le moment pour sortir une carte personnelle spéciale qui va peut-être plus embrouiller les Uruguayens que de rester dans ton système et faire du combat 3 contre 3 où ça va peut-être pas changer quelque chose et ça va peut-être même arranger les Uruguayens parce que eux, ils adorent ça. Mais si tu leur files un Fekir qui va être à droite, à gauche, derrière un petit peu et un Griezmann qui va faire un peu la même chose par rapport à Fekir entre les lignes, ça va peut-être embrouiller.
Ça veut dire que tu veux une équipe beaucoup plus offensive face à l'Uruguay alors.
C'est pas spécialement plus offensif. Ça va beaucoup les gêner. Bien sûr qu'avec Fekir, c'est sûr. Mais est-ce que t'as réellement besoin de trois milieux avec quatre défenseurs et un gardien pour vraiment protéger? Je parle face à l'Uruguay, qui n'est pas non plus une équipe offensive exceptionnelle et sans Cavani.
Ouais, surtout s'il n'y a pas Cavani.
Ben voilà. Ouais. C'est peut-être le bon moment.
Jérôme, ça va te faire plaisir, non, ce que dit Ali, hein, qui réclame Fekir plutôt que Tolisso, non?
Écoute, oui, c'est vrai que bon, ce que disait Ali. Alors après, sur Fekir, le fait qu'il change comme ça de position, Antoine Griezmann et Mbappé l'ont fait sur le dernier match. Ils sont pas restés figés avec Griezmann dans l'axe et Mbappé à droite. Mbappé a souvent été dans l'axe, Griezmann à droite. La seule certitude que j'ai dans ce que pense Didier Deschamps, c'est à son équipe d'équipe. Et j'ai l'impression qu'avec cette équipe-là, elle va être
déséquilibrée.
Ouais, elle va être déséquilibrée parce que Fekir, si tu le mets au départ dans ce 4-2-3-1 côté gauche, il va pas rester côté gauche parce que c'est pas un milieu gauche. Et il joue jamais là. Même si tu lui dis naturellement, il va revenir dans un poste plus axial.
Jérôme n'a pas besoin un petit peu de s'excentrer, même maintenant qu'il est pas bien.
Ouais, exact.
Et faire chacun son tour.
Mais moi, je suis d'accord avec toi, sauf qu'il le fait déjà de droite. Avec Mbappé, il le fait. Mmh. Et il l'a fait contre l'Argentine, ou peut-être dans sa meilleure phase, où il se faisait un petit peu oublier.
Mais 4-3 joueurs offensifs.
Ouais.
Alors qu'à 4, c'est différent.
Alors que... Ouais, mais tu dis 3 joueurs offensifs seulement. Alors, moi, j'ai écouté Blaise Matuidi. Alors, son positionnement, c'était pas du tout comme un milieu gauche hein, sur le dernier
Blaise
match.
Matuidi,
mais il a dit que ce 4-2-3-1 était bien en place et que lui, il était en haut côté gauche. Alors, j'ai pas vu ça sur le match de l'Argentine. Autant je l'ai vu contre le Pérou. Il jouait bien à ce poste-là. Là, il jouait. Il a l'impression vraiment qu'il jouait à 3 au milieu. Mm-hmm. Écoute, ça fait une équipe avec un peu plus de style au niveau offensif, mais j'ai l'impression que Didier Deschamps ne fera pas ça. Du moins, s'il met un milieu de terrain à gauche offensif, genre Thomas Lemar, ça me surprendrait moins, si tu veux, parce que habitué à ce poste-là, habitué à faire les efforts avec l'arrière gauche, habitué à rester dans cette zone-là, peut-être. Alors après, Thomas, il y a son état de forme et tout ça. Mm-hmm. Il a le match du Danemark. Mais bon, si on s'arrête au match du Danemark, dans ces cas-là, les 10 joueurs de champ, tu les fais plus jouer de la compétition. Donc il y a ça.
Tu mettrais qui toi à la place de Matuidi alors?
Mais si c'était moi, je jouerais avec dans ce 4-2-3-1 avec un joueur qui a ce rôle-là en club et qui a donc Thomas Lemar. Je prendrais le risque qu'il soit peut-être moins bien touché mentalement, mais au contraire, t'es un quart de finale de Coupe du Monde. Si mentalement il arrive pas à passer le cap, il faut plus jouer au haut niveau. Mais donc moi je jouerais comme ça. Après,
Fekir est bien. C'est parce que Fekir est rentré, il a fait du bien. C'est surtout ça.
Ouais, du moins ça n'est pas toutes
les rentrées à peu près.
Ouais, les deux premières entrées, franchement, c'était. Je pense que toi, tu serais rentré, t'aurais fait la même chose.
Ça c'est sûr.
même dans cet état-là, tu vois.
T'en sais pas. Oh, il est bien là, t'es fit là.
Mais ouais.
T'as maigri toi, non?
Non, je m'habille à noir.
Mais c'est quand je dis moi, quand tu fais jouer Matuidi à ce poste de milieu gauche, je peux te dire quand je le vois jouer contre le Pérou à ce poste-là, un poste que je connais. Mais comme ça, là, je fais deux fois plus que lui. Offensivement, je te parle. Alors le volume de jeu, non, c'est sûr. Mais tu sais, courir dans le vide. Au d'un moment, moi je m'en fous. Ouais, hein. C'est intéressant.
À la rigueur, ce poste-là irait très bien à Lemar.
Eh ben ouais,
ce bon, alors, beaucoup plus qu'Afrique. Alors, moi, c'était pour embrouiller les Uruguayens.
Justement, la question a été posée, puisque Laurent Fala, notre community manager, a bien bossé comme d'habitude, sur le compte Twitter de l'After, sur le hashtag RMC Live, qui serait-il préférable de mettre comme titulaire pour remplacer Matuidi? Vous êtes 38% à avoir répondu Tolisso, 29% Fekir comme Ali Benarbien, 19% Tovin et 14% Lemar seulement. Alors, c'est quoi tu penses? C'est parce que Lemar a pas été performant là quand il a joué dernièrement?
Bah, c'est sûr. Et il paye, si tu veux, à travers ces dernières prestations. Station en sélection, mais surtout on va mettre sa saison à l'AS Monaco qui a été en demi-teinte. Ouais. Alors après pour aller un petit peu dans son sens et le protéger un petit peu à Monaco, il jouait très rarement côté gauche, il jouait en numéro 10. Ouais. Donc numéro 10, on sait
ce qui n'est pas son...
Bah il a été formé là, mais il y a un temps d'adaptation, c'est pas à toi que je vais dire ça, Ali. Tu as joué à ce poste-là,
jouer des matchs, c'est souvent des matchs.
C'est difficile, donc il paye ça au niveau des mais franchement, si tu joues en 4-2-3-1, mais après tu peux toujours changer de tactique. Ouais. Il doit pas être enfermé dans ce 4-2-3-1. Je pense que la priorité aujourd'hui, vu son état de forme, c'est Mbappé, le mettre dans les meilleures dispositions possibles. Et je pense que ce côté droit, ce rôle côté droit, avec moins d'efforts d'un point de vue défensif.
S'il a Tolisso, tu veux dire?
Et le fait de pouvoir alterner avec Griezmann, ça lui correspond à merveille. Parce que quand tu joues contre le Pérou, il est resté cantonné dans son poste à droite là. D'accord? Il s'est fait emmancher, il a perdu des ballons, il passait plus parce que physiquement les Péruviens étaient là, ils nous pressaient haut et même lui avec tout le talent qu'il a, il était pas dedans.
Il a besoin d'espace de toute façon.
Contre l'Argentine où ils ont voulu mettre de l'impact. Où il a été bon, c'est que il s'est fait oublier quand il est venu dans l'axe. Regarde, le penalty obtenu, il part de l'axe. Le but qui marque, qui est fabuleux, le premier.
Pareil.
L'enchaînement, il est où? Il est dans l'axe. Il est comme un deuxième attaquant. Mm-hmm. Il est pas côté droit. Quand il est côté droit, bien sûr qu'il fait des percées, mais il faut qu'il arrive à se mettre face au jeu, à prendre de l'accélération.
On va y revenir dans quelques instants.